Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager. Ah, une dernière annonce en fait avant de aller avec mon message. J'ai reçu une photo de ce petit bébé. Est-ce que vous savez c'est qui? Ouais, c'est ça. Fait que c'est Ryan, le bébé de Berlin. Et puis, donc c'est ça. Et aussi une photo de... Oh, on voit pas beaucoup. Oups, une photo de la famille. Mais récemment, on a été les visiter ce jeudi. Ils sont vraiment beaux à voir, des nouveaux parents. Et puis, donc c'est ça. Ils ont vraiment hâte de revenir nous voir pour nous montrer. Ils vont juste attendre que les vaccins soient donnés à l'enfant. Puis après ça, là, comme on les voir parmi nous. Mais c'est vraiment un beau petit garçon tout en santé. Fait que c'était juste une petite nouvelle je voulais vous transmettre. OK, aujourd'hui, en fait, j'aimerais que juste on apprécie ensemble notre besoin d'avoir une vision, que ce soit comme une vision dans le sens d'avoir un but, un objectif de vie qui est là et qui nous motive à atteindre quelque chose en Dieu, atteindre, améliorer les choses. Et ce besoin-là, cette vision-là, on en a autant besoin pour éviter les désagréments que le fait de ne pas en avoir donne, et autant d'avoir les bienfaits qu'une vision procure. Et je me souviens la première fois que j'étais en canot camping, la toute première fois, j'avais été avec des amis sur une première île, et là on avait mis nos tentes et tout, et le deuxième jour, la plupart d'entre nous voulaient aller à une autre île. Donc, on a défait nos tentes, on a repacté les canots et on est parti sur le lac, vers d'autres endroits pour trouver un nouveau campement. Et je me souviens, sur le lac, les vents commençaient à se lever et là, il y avait des grosses vagues. Et là, bon, c'était pas si pire. Des fois, quand on était trois dans le canot était vraiment beaucoup rempli. Donc, tu sais, c'était quand même, avec les vagues, ça en venait, tu sais, comme désagréable. Je dirais, j'avais pas peur, mais je trouvais pas ça le fun, tu sais. Et là, je demande à mes amis experts de canot camping, où est-ce qu'on s'en va? Comme, à quel terrain sur la carte, où est-ce qu'on va, tu sais? Oh, ben, je sais pas, il y en a par là-bas, comme il y a lui, mais j'ai aucune idée. Et là, je demandais à tout le monde, et personne savait où est-ce qu'on s'en allait. Et là, c'était les vagues, et là, des fois, les vagues, là, débordait dans... Ben, des fois, il y en avait qui rentraient un petit peu en canot, et j'étais comme... Moi, j'ai pris la carte, j'ai regardé le terrain le plus proche, je me suis dit, moi, je m'en vais là. Et là, que j'étais le dernier canot en arrière, j'ai ramé tellement vite, j'ai passé toutes les autres, puis j'ai dit, moi, je m'en vais là. Et là, finalement, on était arrêté là, ça a été un beau campement, qu'on a passé le reste de notre séjour là. Mais combien c'est difficile de vivre des moments d'épreuve quand on sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est Friedrich Nietzsche a dit que celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Celui qui sait pourquoi il vit peut supporter presque n'importe quelle condition ou épreuve qui va à l'encontre de dans le fond de l'atteinte de son but. Et puis donc ça c'est version négative qui démontre qu'on a besoin d'une vision. Mais hier, au Lavoto, on a vu la version positive de la vision. C'était vraiment drôle parce que on avait des équipes au niveau de la promotion. Et là, on avait une pancarte sur laquelle était écrit Lavoto. Et puis, à un moment donné, Alex et Daniel se sont mis ensemble et ont fait une petite stratégie. Leur stratégie, c'était ceci, dans le fond. Il y avait la pancarte Lavoto. Et là, Daniel était devant Alex. Et là, Alex faisait ça, dans le fond. Elle était même. Là, quand mettait la pancarte comme ça, elle faisait genre. Là, les gens riaient vraiment parce que c'était comme si, dans le fond, ils avaient l'opportunité de nous apporter beaucoup de joie. Et là, elle, à l'autre bout, faisait le contraire. Elle était comme avec sa pancarte comme. Et là, quand les gens faisaient, ben elle faisait. Et là, plein de personnes venaient. Moi, comme au début, c'est moi, j'étais comme là à la vue. Là, me disait, ah, ben vous avez vraiment une bonne équipe de promotion. Quand j'ai vu la blonde faire, j'ai pas pu m'empêcher de venir. Donc là, on était en train de laver des voitures propres, mais les gens voulaient comme embarquer comme dans la joie qu'on leur présentait. Et puis, on leur a donné la vision qu'ils pouvaient faire la différence dans notre vie ou dans notre journée. Ils pouvaient contribuer à notre joie. et à la joie de d'autres. On a parlé de la cause de Love in Motion, mais on leur a donné une vision qui, si ça a été juste sur la base du besoin, ils seraient pas venus parce qu'ils avaient pas besoin de laver leur voiture. Ben, du moins. Certains oui, mais d'autres non. Et puis, mais ils ont eu une vision que leur participation pouvait faire la différence puis apporter de la joie. Et ça, ils ont embarqué là-dedans. Donc, on a vraiment besoin d'une vision autant pour éviter les inconvénients que ça apporte que de jouir des bienfaits que ça apporte. Et dans le livre de Néhémie, on voit un homme de Dieu qui avait une grande vision pour Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. On va lire ensemble le premier chapitre de Néhémie, versets 1 à 11. Et on va voir comment cette vision a pris naissance dans son cœur, puis comment est-ce que cette vision-là s'est clarifiée, et comment est-ce qu'il a agi pour la réaliser aussi. Néhémie 1, versets 1 à 11. Donc, prions le Seigneur avant de lire sa parole. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut te louer pour la vie que tu nous donnes et cette belle été qui est devant nous. Et aussi, Seigneur, parce que tu es pleinement présent dans ton Église, tu es ici en ce lieu et Seigneur, ça fait du bien de venir te rencontrer, de venir rencontrer nos frères et sœurs. Et on te demande de manifester ta présence par ton esprit. On te demande, Seigneur, de parler au travers de ta parole, de la rendre vivante pour chacun d'entre nous, de venir nous rencontrer dans nos besoins, dans nos attentes, dans nos espérances, Seigneur, et viens susciter en nous une vision qui vient de toi, qui nous inspire à te servir et qui, Seigneur Dieu, qui nous pousse, Seigneur Dieu, qui nous donne la motivation pour faire la différence là où tu nous as placés, même dans les petites choses comme dans les grandes. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, « Ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Une des premières choses qu'on apprend de la vie de Néhémie, c'est que une vision naît de nos valeurs profondes. Et en fait, on voit ça dans les versets, surtout le verset 3, où est-ce que 2 plutôt, où est-ce qu'il s'enquiert, il demande des nouvelles de Jérusalem et de ses frères là-bas, alors que lui est à Suse. Donc, Suse, Jérusalem, 5 mois de voyage. 5 mois de voyage qui séparent les deux. Lui est en train de servir le roi dans le palais, le roi perse. c'est l'empire perse qui règne à cette époque-là sur tout le Proche-Orient ancien. Et lui est au service du roi et il est échanson. Un échanson, c'est quelqu'un qui sert à boire au roi, mais c'est une personne vraiment de confiance parce qu'il s'assure que dans le fond, il y aura aucun poison dans la nourriture et ces choses-là. Et donc, il est à Suse, ses pieds sont à Suse, mais son cœur et sa tête est où? À Jérusalem. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Je travaillais en mécanique du bâtiment pendant 4 ans, là. Mes pieds étaient en mécanique du bâtiment, mais mon cœur et ma tête n'étaient pas là. Mais c'est ça, donc. Et là, il s'encarre de qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a à cœur ce qui se passe. Il veut avoir des nouvelles. Et là, malheureusement, les nouvelles qu'il a sont mauvaises. Et là, on voit vraiment verset 4, une réaction qui est quand même très, très émotive. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Donc, on voit vraiment qu'il réagit fortement aux nouvelles qu'il entend. Et en fait, on voit par là que c'est pas tant que ce qu'il a, la vision qu'il a, vient juste de ses valeurs, mais plutôt la vision qu'il a vient de la confrontation entre ses valeurs personnelles et la réalité présente. Ça, c'est vraiment un point important. Néhémie, un homme, si vous connaissez son histoire, a fait des grandes choses. Plus tard, je vous donne un peu le preview de ce qui arrive dans le livre, mais il va demander au roi d'aller à Jérusalem, que le roi l'établisse gouverneur de Jérusalem pour aller reconstruire la muraille. Et éventuellement, il va y aller. Il va y avoir plusieurs épreuves, il va y avoir des ennemis qui vont vouloir empêcher la réussite de la reconstruction de la ville. Mais il va réussir. Et puis, on voit vers la fin que il a vraiment réussi à remettre le chemin, le peuple de Dieu sur le droit chemin. Et puis, c'est un homme qui a eu un grand impact pour Dieu. Mais à la base, cet impact-là vient de où? Elle vient du fait qu'il y avait une valeur bien définie en Dieu, Jérusalem, et qu'il a entendu quelque chose qui allait à l'encontre de cette valeur-là. Et ça, ça a provoqué en lui des émotions qui l'ont poussé à l'action. Qu'est-ce qu'une émotion? Est-ce que vous êtes déjà arrêté à penser à ça? Moi, je suis philosophe, si vous ne saviez pas. Maintenant, j'aime définir des notions fondamentales. Une émotion, c'est la combinaison d'une valeur, d'une préoccupation, quelque chose d'important pour nous, avec une lecture du monde. Si, par exemple, vous étiez un environnementaliste, quelqu'un qui avait vraiment à cœur l'environnement, vous voulez la protéger, que vous apprenez que telle pétrolière déverse ses produits dans la rivière qui est pas trop loin de chez vous, vous allez être rempli de rage parce que vous avez cette valeur, l'environnement, et cette compréhension du monde, cette pétrolière déverse des produits. Et puis ça, combiné ensemble, ça vous pousse à l'action. Mais si on change une des deux, disons que vous avez plus à cœur l'environnement, vous êtes un patron, un PDG d'une compagnie, ce que vous avez à cœur, c'est l'argent. Est-ce que vous allez être choqué qu'on déverse des produits dans la rivière? Non, c'est pas votre valeur. Votre valeur, c'est l'argent. Même si l'environnement écope, tant que votre valeur est rencontrée, vous allez être content. Si on revient à l'environnementaliste puis qu'on change pas sa valeur, mais on change sa compréhension du monde autour de lui et qu'on dit, ben en fait, la pétrolière ne déverse pas de produits. La pétrolière respecte les normes environnementales. Mais là, la personne va être moins colérique et tout. Donc, elle sera pas portée à l'action parce que sa compréhension du monde ne vient pas à l'encontre de sa valeur. Bien, de la même manière ici, c'est la valeur de Néhémie, c'est Jérusalem. Et puis, ce qu'il voit va à l'encontre de sa valeur. Et c'est ça qui va le pousser à l'action. Donc, quelles sont vos valeurs, premièrement? Quelles sont vos valeurs en tant que chrétien? En Christ, on a des dons spirituels différents et ça naît de nos valeurs différentes. Donc, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes capable de déterminer là sur une feuille? Voici mes 5 valeurs là en Christ. Pour moi, c'est vraiment important. Et deuxième chose, je vous invite vraiment à avoir cette réflexion-là comme cette semaine. Est-ce que vos valeurs sont mises à l'épreuve? Est-ce que vos valeurs personnelles sont Est-ce qu'elles sont rencontrées par la situation que vous voyez? Est-ce qu'il y a des réalités autour de vous qui viennent froisser vos valeurs? Et si oui, mais ça peut être vraiment un indicateur de comment Dieu veut que vous agissiez pour lui dans le monde et dans l'Église. Deuxième chose concernant les valeurs, on voit dans Néhémie 2:12, Néhémie dit ceci: « Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Donc, on voit que Dieu guide Néhémie et Dieu nous guide par ce qui nous met à cœur. Quand en Dieu, on a des choses vraiment à cœur pour lui, ça, c'est comme une direction que Dieu veut donner à notre vie. Et faut être à l'écoute de ça parce que c'est vraiment un indicateur important. Pour Néhémie, pourquoi Jérusalem c'est important pour Néhémie? C'était entre autres parce que c'est là que Dieu avait choisi de faire résider son nom. Donc, si on veut connaître Dieu, si on veut être en communion avec Dieu, c'était à Jérusalem que qu'on devait aller pour apprendre. Imaginez-vous, on dit ça, OK, si tu veux connaître Jésus, tu vas à Jérusalem, et là, tu arrives à Jérusalem, et là, c'est le chaos. Quelle impression est-ce que ça vous donne de Dieu, de Yahweh, tu sais? Ça vous donne l'impression que il est pas très fort, ton Dieu, il est pas très attirant, ton Dieu. Je vais chercher ailleurs qui est le vrai Dieu. Pareillement, les prophètes Ésaïe et Michée disaient ceci: des peuples s'y rendront, en parlant de Jérusalem, des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Donc, Néhémie sait que c'est par l'entremise du peuple juif que les autres nations vont venir à connaître le vrai Dieu. Et comme Jérusalem est amochée, ça devient pas très possible comme mission. Donc, Néhémie valorise Jérusalem, et puis la réalité présente va à l'encontre de sa valeur profonde. Ça me fait penser à Jésus qui, dans le chapitre 12 des Hébreux, versets 1 à 2, ça dit ceci: « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, écoutez bien ceci, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, à se faire la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc, pourquoi Jésus est venu passer par la croix? Parce qu'il avait en vue la joie que chacun d'entre nous ici, on serait en paix avec Dieu, que chacun d'entre nous ici, on serait réconciliés les uns avec les autres et avec Dieu, qu'on aurait la joie de le connaître, qu'on aurait la joie de grandir dans ses valeurs. Et cette joie-là, qui était une joie future que Jésus avait dans sa vision, était tellement grande pour lui, était tellement inspirante pour lui qu'il a souffert la croix, il a accepté de passer par la croix à cause de la joie qu'il avait au bout du chemin. Et puis, donc, c'est ça. Qu'est-ce qui vous apporte la joie en Christ? Qu'est-ce qui vous apporte la joie dans le Seigneur? C'est vraiment l'indicateur de qu'est-ce que le Seigneur s'attend qu'on fasse pour lui. Donc, d'autres petits points que j'écris ici. Si nos valeurs changent, le chemin que va prendre notre vie va changer. Si Néhémie là est à Suse, puis il a un bon poste au palais, il est content avec ça, puis il pense pas à Jérusalem, il est bien à Suse. Il aime sa vie là-bas, il aime son statut social, il aime ce que Suse lui apporte. Jérusalem va pas être bâti. Jérusalem va toujours être avoir des portes brûlées et tout. De la même manière, si nous, en tant que chrétiens, on est satisfait de ce que le monde apporte et que on n'a pas à cœur ce que l'Église ou le royaume de Dieu a apporté, ben on n'agira pas non plus pour concrètement pour l'avancement du royaume. Et de l'autre côté, si notre lecture de la situation change, si on n'est pas capable de voir la réalité telle qu'elle est, de voir les problèmes, les défis qu'il y a dans la réalité qu'on est appelé à relever, ben on fera pas non plus de grand-chose. Donc, c'est important d'avoir une bonne compréhension de nos propres valeurs, puis une bonne compréhension, une bonne lecture de la réalité présente et de la comparer à comment est-ce qu'on aimerait que les choses changent. Donc, point numéro 2. C'est quoi le point numéro 1? Ouais, une vision naît de nos valeurs. Fait que j'espère pas vous endormir ce matin, là. Je sais que c'est l'été, on est en vacances, on prend ça relax. OK, une vision naît de nos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Et puis, est-ce que vos valeurs sont confrontées? Si oui, comme écoutez ça, puis investissez-vous dans cette lignée-là. Moi, quand je vois quand je vois d'autres groupes religieux, les musulmans et les athées, parce que je considère que les athées sont religieux, comme les humanistes, quand je les vois vouloir promouvoir leur vision du monde, donner leur vie pour leur vision du monde, ça vient me chercher. Ça vient me chercher vraiment parce que je me dis, c'est des fausses idéologies. Ils ont pas la vérité et ils donnent leur vie pour ça. Ils vont donner leur argent, ils vont donner leur temps, ils vont donner, vont tout donner pour ça. Ils sont dans l'erreur. Ils guident les autres personnes dans l'erreur. Ça vient me chercher vraiment. Et j'essaie de, avec mon blog ou avec d'autres moyens de m'investir à ce niveau-là, entre autres. Mais j'ai d'autres valeurs aussi dans le Seigneur qui fait que je m'investis dans certaines directions. Donc, mais quelles sont vos valeurs et est-ce qu'elles sont confrontées? Deuxième point. Une vision se clarifie dans la prière parce que la prière nous aide à percevoir la situation spirituellement. Dans les versets 5 à 7, Néhémie va vraiment prendre un temps pour la confession parce que il vient devant Dieu. On va lire verset 5. Et je dis, « Ah, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. » Donc, la prière, c'est quoi? On entre dans la présence de Dieu. On entre dans la présence de Dieu. Ça fait plein d'effets, ça, rentrer dans la présence de Dieu. Ça peut nous donner la paix, ça peut nous donner l'espérance, ça peut nous donner des forces, ça peut nous donner une direction. Mais aussi, quand on entre dans la présence de Dieu puis qu'on réalise qu'on est devant un Dieu saint, un Dieu qui a des standards extraordinaires, qui a des valeurs extraordinaires, un Dieu qui veut apporter du bien, qui veut dans le monde, etc. On est comme dans un reflet de miroir et là, on se voit et on voit que notre condition spirituelle n'est pas telle qu'elle devrait être ou du moins, on se sent challengé, mis au défi par la nature de Dieu. Et puis, on arrive à un point parfois où est-ce qu'on doit dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que à tel et tel niveau ou tel et tel aspect dans ma vie, j'ai complètement manqué le but. J'ai passé à côté de ce que tu commandais dans ta parole. Et non seulement moi, mais ma famille, non seulement ma famille, mais peut-être l'Église ou pour lui, c'était son peuple. Donc, prends un temps vraiment de, face à la sainteté de Dieu, face à la grandeur de Dieu, s'examiner spirituellement. Et de voir le lien entre l'état qui est présent, qui est indésirable, et la cause de cet état-là. La cause de cet état-là pour lui, c'était les péchés de son peuple et le fait qu'il s'avait détourné en masse de Dieu. Donc, la prière nous aide à percevoir notre situation, la situation spirituellement, et pas juste avec nos yeux humains. Qui va analyser les causes sociologiques ou psychologiques, etc., mais de vraiment le voir avec l'œil de Dieu. Deuxième chose, c'est que la prière nous incite à dépendre de Dieu pour accomplir la vision. On voit dans sa prière encore, versets 8 et 9, Néhémie va faire quelque chose que je vous invite tous à faire dans vos prières. Qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle à Dieu la parole, sa parole, en fond. Et je vous inviterai à faire ça dans la prière parce que ça va, d'après moi, je pense que ça va rendre 100 fois plus puissant nos prières parce que, de un, elles vont être ancrées dans la parole de Dieu. Et de deux, c'est ça, c'est que on a l'assurance qu'on prie selon la volonté de Dieu. Et quand on a cette assurance-là, il y a une promesse dans 1 Jean qui dit que si on prie selon la volonté de Dieu, il nous donne déjà ce qu'on lui a demandé. Donc, regardez avec moi verset 8, ça dit quoi? C'est Néhémie qui parle à Dieu dans sa prière, il dit ceci. « Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, lorsque vous serez infidèle, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Et donc, il cite ce passage du Deutéronome et après ça, il continue dans sa prière et il rappelle que c'est son peuple, il rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait pour son peuple et dans le fond, c'est comme s'il essaie de convaincre Dieu, mais c'est plutôt de voir la situation spirituellement et aussi d'être bien ancré dans la parole pour s'assurer que notre vision concorde avec le plan de Dieu. Et dernière chose, c'est que la prière nourrit l'espérance et la foi, parce qu'on voit déjà dans la fin de la prière de Néhémie qu'il y a quelque chose en tête. Au travers de sa prière, il y a comme déjà des idées concrètes qui s'en viennent. Oups, je répète la prendre, je suis pas habitué.
Un, deux, un, deux. Bon. Plus grande liberté comme ça.
Donc, déjà à la fin de sa prière, on voit que Néhémie a quelque chose en tête. Parce qu'on peut lire, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Il finit avec « Fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Et là, il n'y a aucune précision. Il n'y a pas « Ah, je vais aller devant le roi, je vais lui demander ça, etc. » Mais il y a déjà l'idée que si lui peut faire quelque chose, il y a une position d'autorité au niveau du gouvernement, et puis s'il peut avoir l'accord du roi, il y aurait vraiment une influence grandiose sur la ville de Jérusalem. Donc, déjà là, tout après, ça finit avec « J'étais alors échanson du roi ». La suite du passage va justement nous parler de comment il était devant le roi et que il était dans un air qui était triste, que le roi a perçu ça. Et c'était vraiment grave parce qu'il paraît qu'un échanson ou les personnes dans la présence du roi à l'époque ne pouvaient pas être tristes, sinon ils couraient courir le risque d'être tués, pas être mis à mort. Donc c'était vraiment grave et c'est pour ça que justement il parle d'une grande crainte quand que le roi vu que il était triste dans sa présence. Et finalement, au contraire, le roi l'appréciait et puis il lui a dit c'est quoi qui se passe, etc. Et là, il lui a parlé de comment l'état de la ville de Jérusalem comment ça allait mal là-bas, comment il avait à cœur cette ville-là. Et là, le roi lui a dit ben qu'est-ce que tu veux? Donc, il lui a demandé s'il pouvait devenir gouverneur en autre mot. Là. Et puis finalement, le roi l'a envoyé. Mais tout ça, cette direction concrète-là que son action a pris, semble vraiment être venue dans la prière. Parce que c'est à la fin de sa prière qu'il demande à Dieu, donne du succès à ton serviteur devant cet homme. Donne la faveur de cet homme à ton serviteur. Donc, la prière a déjà orienté l'action concrète de Néhémie. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'il a emprunté la direction qui venait de Dieu. La troisième chose, c'est ça, c'est la vision s'actualise par le courage. Et puis, une chose importante à ce niveau-là, c'est que il y a une différence entre un rêve et une vision. Nelson Mandela dit Une vision sans action n'est qu'un rêve. Une vision sans action n'est qu'un rêve. Quelques jours avant de dire à mon boss que je démissionnais de mon emploi, là, quand je travaillais pour l'Armex à Ottawa, quelques jours avant de lui dire ça, j'ai écrit ça sur mon Facebook, j'ai juste publié ça. J'avais vu cette citation de Nelson, puis je trouvais ça vraiment intéressant. On peut avoir des valeurs, on peut avoir des grandes idées, on peut avoir de l'imagination, comment les choses pourraient devenir, mais si on passe jamais à l'action, si tu fais juste rêver. Puis, en fait, c'est ça, il faut avoir le courage de passer à l'action. C'est pas toujours facile de parler de Jésus à quelqu'un. On l'a à cœur, puis on regarde les opportunités, etc., mais à un certain point, il faut le pas de foi où est-ce qu'on dit, quand même si je me plante, même si ça a l'air bizarre pour porter telle chose, je veux me lancer là-dedans, et puis je veux apprendre à ce niveau-là pour devenir éventuellement meilleur. Je me suis dit, à un moment donné, j'avais tellement à cœur de parler de Jésus, j'étais à un arrêt d'autobus, et là, ça faisait longtemps que je voulais parler de Jésus, puis ça ne donnait pas. Mais là, il y a une madame qui arrive, puis là, c'était comme si Follet, là. Fait que là, j'arrive, c'était dans le temps de Noël. Follet. Et là, c'était dans le temps de Noël. Et là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien dire à madame pour essayer d'initier une conversation. Puis là, en fait, j'ai été assez directement, j'ai dit, « Hey, madame, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bonne nouvelle? » Puis là, elle était comme, « Quelle bonne nouvelle? » Puis là, j'ai dit, ben, Jésus est mort pour vos péchés. Puis là, comme, là, elle a dit, ben, ouais. Puis là, je dis, ah, OK. Puis elle a dit, pourquoi tu me demandes ça? Puis là, je dis, c'est dans le temps de Noël, puis je trouve que c'était bien qu'on se le rappelle. Fait que là, elle a dit, ben, c'est bien qu'on se le rappelle à chaque jour. Et j'étais comme, c'est vrai. Fait que, finalement, c'est comme, ça a pas très... marché, ben, j'imagine que oui et non, mais au moins j'ai eu du courage, au moins j'ai osé, au moins j'ai essayé, puis maintenant j'ai des meilleures tactiques. Mais est-ce que c'est facile pour les croyants d'arriver à une foi confortable et puis de ne plus prendre de risques pour Dieu, de ne plus prendre de risques pour Dieu? Et on voit que Néhémie a pris un risque pour Dieu parce que, justement, comme j'ai dit tantôt, il a failli perdre sa vie parce qu'il a paru triste dans la présence du roi. Et puis, malgré ça, il a décidé d'être courageux, d'être authentique dans ce qui l'animait au plus profond de lui, de suivre cette direction-là, même si ça pouvait... lui amener des dangers pour sa propre vie. Donc, prenons-nous encore des risques pour Dieu? C'est une bonne question. La vision s'actualise par le courage parce que, en fait, être le changement que l'on souhaite voir arriver dans le monde, pour voir un changement arriver dans le monde, il faut d'abord concrétiser nous-mêmes ce changement-là dans notre propre vie. Et puis, c'est ce qu'on a vu dans la vie de Néhémie, c'est il a été de l'avant, puis il a pris ce qu'il avait, et puis il l'a mis devant Dieu, il l'a mis devant le roi, et puis ça l'a propulsé pour faire un changement. Je vois que j'ai oublié mes notes ici. Une vision répond à la question qu'est-ce que tu veux? Et puis... une stratégie répond à la question « Comment atteindras-tu ce que tu veux? » Je répétais ça. Une vision, dans le fond, répond à la question « Qu'est-ce que tu veux voir arriver? » Mais une stratégie, c'est « Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour voir ce que tu veux arriver, dans le fond, s'opérer? » Et puis, quelqu'un dit ceci, je trouvais ça vraiment intéressant. Le problème est que les gens demeurent fixés sur le « comment », sur la stratégie, dans le fond. Ils ne voient pas comment ils pourraient accomplir plus. Alors, ils diminuent leur vision, convaincus qu'ils doivent être réalistes. Et leur attente devient leur nouvelle réalité. Ça, c'est la foi appliquée à l'inverse. Je vais vous donner un exemple concret. Plus tard qu'hier, justement, comme j'ai dit tantôt, on faisait le lavoto en avant. On a une vision. On fait un lavoto, on vise quoi? On visait 200$. C'était ça notre vision au début. Et puis... on fait notre lavoto ici, notre stratégie en avant de la corde, etc. On a nos pancartes et tout. Ça marche pas. Moi, plus profond de moi, je me disais, okay, on retourne à la maison, là, puis on va économiser du temps à tout le monde, tu sais. Mais là, par exemple, elle s'est dit non, on garde la vision, on change la stratégie, on essaie de trouver une nouvelle place. On fait des appels. Elle s'appelait dans les stations d'essence, dans les maxis pour faire des offres d'emballage, etc. Et moi, je me disais, c'est la fin de semaine, les gérants seront pas là, etc., etc. J'avais baissé ma vision. Rapidement. Pourquoi? Parce que la stratégie fonctionnait pas. Mais souvent, c'est ça, notre vision diminue parce que ce que l'on fait, la façon de s'y prendre fonctionne pas. Fait qu'on se dit, bon, ben ma vision est mauvaise. T'sais. Mais en fait, non, le Seigneur nous appelle à continuer de souhaiter faire un impact dans le monde, faire une différence, avoir une vision claire, définie, basée sur nos valeurs. Et puis, si ça marche pas, ben continue de prier ou bien change ta stratégie, mais baisse pas tes attentes, baisse pas ce que le Seigneur te met à cœur parce que ça marche pas. Ça serait capituler trop vite, puis c'est l'inverse de la foi que de se dire, oh, ben finalement, on est fait pour gagner un petit pain. Puis... C'est ça. Donc, prendre des risques pour Dieu fait partie de la foi. C'est une composante. Ça me fait penser aux trois personnes dans le livre de Daniel qui sont devant le roi, puis le roi leur dit, dans le fond, si vous agenouillez pas lorsque on sonne la trompette, vous allez mourir. Et puis là, eux, ils disent, ben en fait, nous, on préfère obéir à Dieu. Fait que dans le fond, et même si tu nous menaces de mort, Dieu peut nous en délivrer. Mais s'il ne nous en délivre pas, sache au roi qu'on va pas se plier à ta pression, en fond. Et donc, dans la foi, il y a la confiance que Dieu peut les délivrer. Mais en même temps, ils ont été réalistes de dire, peut-être que non, peut-être que Dieu va pas les délivrer, va pas nous délivrer. Et puis, peut-être qu'on va devoir payer de notre vie. Et mais, en bout de ligne, je sais que malgré le fait que je cours un risque, Dieu va toujours être là, en bout de ligne, pour moi. Même si je meurs, il va être là, et puis, il va m'accueillir dans l'éternité. Donc, il y a toujours un risque quand on fait des actions courageuses pour Dieu, mais il faut l'accepter, et puis, pour aller de l'avant quand même. Je dirais pour conclure que il n'y a pas d'âge hein, pour avoir des visions. Je crois même que, comme je me souviens quand j'étais ancien à Gatineau, j'ai été à un moment donné visiter une personne qui était dans ses derniers jours et c'était une femme, Henriette Ozou. Et puis, tu sais, pour moi, c'est la première fois, je crois, j'allais à l'hôpital pour voir une personne qui était dans ses derniers jours. Et puis, bon, je me suis dit, tu sais, ça va être, tu sais, on va aller être une source de bénédiction pour elle. On va l'encourager, on va, tu sais, ça va sûrement égayer sa journée, etc. Et finalement, c'est elle qui m'a béni parce que de voir que elle est à quelques jours de mourir et de voir sa paix et sa joie qui était tellement réelle et profonde, ça m'a vraiment marqué puis ça m'a communiqué moi. Quand j'arrive dans les derniers jours de ma vie, je veux ressembler à Henriette. Pourquoi? Parce que c'est comme elle a tellement presque une joie d'aller dans la présence du Seigneur et c'était beau à voir. Et puis sa vision s'arrêtait pas à la mort. Elle avait une vision qui dépassait la mort et puis elle était tellement belle à voir là-dedans qu'elle m'a donné pas le goût de mourir, inquiétez-vous pas, mais elle m'a donné le goût de justement développer cette relation intime avec Dieu qui fait en sorte que quand la mort arrive, c'est comme l'équivalent pratiquement que d'aller se coucher le soir. Mais fait qu'il y a pas d'âge vraiment pour faire une différence dans la vie des autres et puis être une inspiration pour les autres. Donc sur ça, je vous invite à tourner en prière avec moi et puis on va demander au Seigneur de clarifier ces choses à notre esprit. Père Céleste, on veut venir devant toi et on te remercie pour la vie de Néhémie qui nous inspire. Et merci Seigneur pour l'impact que tu as eu au travers de lui et pour ce récit qui est là, qui nous inspire et qui nous montre, Seigneur, que tu veux nous utiliser, tu veux employer chaque personne de ton peuple pour l'avancement de ton royaume, pour que Jérusalem se porte bien, que ton nom soit glorifié, proclamé. Saint-Esprit, aide-nous à voir les valeurs que tu as mises dans notre cœur, les valeurs qui viennent de toi et que tu veux utiliser pour faire la différence, pour changer l'état des choses actuelles. Et Seigneur, aide-nous à regarder la réalité autour de nous avec tes yeux. Et puis, Seigneur, à venir dans cette intimité avec toi, Seigneur Dieu, pour que tu puisses nous montrer, Seigneur Dieu, quelle direction tu veux que notre vie prenne ou l'étape de notre vie prenne. Et puis, Seigneur, bien faire en sorte que chacun d'entre nous ici, on puisse avoir ce sens de vision clairement défini afin que ton Église dans son ensemble puisse vraiment avoir un impact maximisé dans ce quartier, à Montréal et dans le monde. Dans le nom de Jésus. Amen.